Continuons donc nos études sur les caractères de la vraie foi en ce 5 janvier 1984. Et ce que nous vous avons proposé, c'était la lecture de quelques textes de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, comparés à l'enseignement que nous donne Jacques, qui a lui aussi écrit une épître qui se trouve presque à la fin du Nouveau Testament. Alors, je dirais ceci, c'est que pour bien saisir l'enseignement de l'apôtre Paul sur la justification par la foi, il faudrait lire au fond toute l'épître aux Romains, qui traite de ce grand sujet et qui répond à cette question que se posait déjà le patriarche Job. Bien les années avant Jésus-Christ, donc au temps d'Abraham peut-être, ou de Moïse, selon les autres, comment un homme pourra-t-il être juste devant Dieu? C'était la question qui tourmentait Job, le patriarche. Alors, la réponse, bien nous l'avons dans cet épître aux Romains, qui a été pour le réformateur Luther le tournant de sa vie. Ce moine qui était tourmenté, qui se flagellait, qui cherchait à être agréable à Dieu, qui voyait en lui-même tout le péché qui s'y trouvait, qui se demandait, mais comment est-ce que je pourrais être juste devant Dieu? Et il a trouvé dans son couvent, il a trouvé la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, puis il s'est mis à lire l'Épître aux Romains, et il a eu là cette grande révélation que l'homme n'était pas justifié par ses propres efforts et par ses œuvres, mais qu'il était justifié par l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix, œuvre que l'on saisit, que l'on s'approprie par la foi, pas une foi intellectuelle, mais la foi du cœur. Et ce fut pour lui la délivrance. Et quand on a eu cette délivrance, on aimerait la communiquer à d'autres. Et c'est ce qu'il a essayé de faire dans son église. Il n'a jamais pensé quitter son église, mais il a demandé qu'on revienne à ces vérités fondamentales du christianisme. Il n'a pas été compris et il a été excommunié. Mais c'est pas lui qui s'est séparé, on l'a excommunié. Bon, alors on a beaucoup parlé de Luther justement dans cette année qui vient de s'écouler, et Luther lui disait que, je vous l'ai déjà cité, qu'il lisait l'Épître aux Romains une fois par semaine, depuis qu'il avait fait cette découverte, pour s'en imprégner, et que chaque jour, chaque fois qu'il relisait cet Épître, il y découvrait de nouvelles merveilles, et cela l'affermissait non seulement dans la doctrine du Seigneur, mais ça l'affermissait aussi dans sa vie pratique. Parce que si on a une doctrine, c'est pour la vivre. C'est pour vivre selon cette doctrine. Jésus, sa doctrine, c'était sa vie, et sa vie, c'était sa doctrine. Il n'y avait pas de séparation. Alors, pour bien comprendre cet enseignement, il aurait fallu lire le chapitre premier de cet épître aux Romains, mais je le résume. Dans ce chapitre premier, l'apôtre écrit à des chrétiens qui sont à Rome et leur dit que très souvent, il a eu le désir d'aller les voir pour leur apporter l'évangile. Ben, on pourrait dire, mais pourquoi leur apporter l'évangile? Ils l'ont déjà, ils connaissent l'évangile. C'était déjà des croyants qui avaient entendu l'évangile et qui possédaient l'évangile, qui étaient sauvés par la grâce. Mais pour l'apôtre Paul, l'évangile, c'est pas juste croire que le Seigneur Jésus est le sauveur, mais l'évangile, c'est tout le conseil de Dieu. Et nous avons besoin de retrouver les dimensions de l'évangile. Et cet évangile qu'il aurait voulu apporter à des gens qui connaissaient déjà le Seigneur, devait leur donner une mesure de foi plus grande encore que celle qu'ils n'avaient. Car nous l'avons souligné, un des caractères de la foi, c'est de pouvoir grandir, pour saisir davantage ces vérités merveilleuses qui nous sont révélées dans la parole. Et Paul disait dans le chapitre 1er, « Moi, je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » C'est un message qui est universel, pour le salut du juif comme pour le salut du grec. Et il ajoutait, « Car c'est une révélation, la justice de Dieu y est révélée. C'est dans l'Évangile qu'est révélée la vraie justice de Dieu. » La loi nous montre la justice humaine, ce que l'homme, ce que Dieu serait en droit d'attendre d'un homme. Mais la loi ne nous présente que ce qui est juste aux yeux des hommes, ce qui est juste aussi aux yeux de Dieu. Mais enfin, ça ne va pas plus loin que la justice humaine, ce que nous donne la loi. Tandis que l'Évangile nous montre ce qu'est la justice divine, la justice de Dieu. Il nous dit... C'est dans l'Évangile qu'est révélée la justice de Dieu sur le principe de la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra de foi. Et il se sentait débiteur aussi bien vis-à-vis des barbares, des païens, des ignorants, que des sages, ou que des juifs religieux. Tous ont besoin de connaître cet évangile. Puis ensuite, il nous parle de la condition des païens dans ce chapitre premier, ces gens qui ont une conscience, mais qui sont inexcusables de vivre d'une manière contraire à la loi naturelle, parce que Dieu s'est fait connaître aux hommes, mais les hommes ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils sont éloignés de Dieu, et ils sont tombés donc dans toutes ces choses vaines, dans ce paganisme. Alors, il nous décrit d'abord la situation des païens, puis ensuite, il parle des juifs, qui eux ont reçu, en plus de la conscience qu'ils ont en commun avec les païens, et des lois naturelles, et qui rendent un homme inexcusable de vivre comme si Dieu n'existait pas, ils ont reçu les 10 commandements, ils ont reçu la loi de Dieu. Mais il montre dans ce chapitre que les juifs ne peuvent pas se glorifier sur les païens, parce que tout en ayant plus de connaissance que, tout en ayant la connaissance de la loi de Dieu, qu'est-ce qu'ils font de cette loi? Ils la transgressent. Ils la transgressent. De sorte que la conclusion de l'apôtre Paul, c'est qu'on peut pas, aucun homme ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Aucun ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Et justement, quand on est sous la loi, on se trouve toujours sous la malédiction, on se sent toujours accusé. On n'en a jamais fait assez. Alors on n'a pas la paix. Un homme qui ne connaît que la loi, c'est un homme qui n'a pas la paix. Et il s'efforce de faire le bien, et puis il tombe, et il est toujours dans l'angoisse. Et au chapitre 3, dont vous avez lu une partie, la fin, la conclusion de Paul, c'est de montrer que quand Jésus est venu, il a trouvé donc un peuple qui connaissait la loi, le peuple juif, puis il a trouvé le peuple romain, les païens, qui étaient dirigés par leur conscience. Et il montre que tous sont devenus coupables devant Dieu. Qu'est-ce que les juifs ont fait avec Jésus, qui avait accompli la loi? Ils l'ont livré aux romains, qui auraient dû le protéger. Et les romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté leur conscience? Non. Ils ont fait taire leur conscience. Et ils sont tous coupables du crime de Golgotha. Dire que c'est les Juifs qui ont tué Jésus, c'est faux. Les Juifs l'ont livré et les païens l'ont crucifié. Je me souviens d'avoir dit cette phrase en 1953 à Tunis. En Tunisie, il y avait 500 juifs tunisiens dans une conférence que je devais faire spécialement pour les juifs. Et je me souviens, il fallait que je sois fidèle et que j'aille jusqu'au bout et que je leur annonce Jésus. Et quand je suis arrivé à ce moment de la mort de Jésus, j'ai dit simplement, vous nous l'avez livré et nous l'avons crucifié. Pour ne pas dire, vous l'avez livré. Nous sommes tous, juifs ou païens, juifs ou romains, nous sommes tous coupables du crime de Golgotha. Et il est démontré que même un homme religieux peut être aussi un criminel. Et qu'un homme qui a une conscience peut aussi être un meurtrier. Alors, c'est la conclusion du verset 20, et c'est là que vous avez commencé votre lecture, car, au verset 19 déjà, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, donc aux juifs, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par des œuvres de loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, la conclusion, c'est que on ne peut pas être justifié en s'efforçant d'accomplir les œuvres de la loi. Même si on en fait de ces bonnes œuvres, l'Écriture nous dit dans Ésaïe que la meilleure de nos œuvres, c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. Verset 21. Mais maintenant, sans loi, dit Paul, est manifestée la justice de Dieu. La loi manifestait une justice humaine. Faites ces choses et vous vivrez. Mais les hommes étaient incapables de le faire. Mais maintenant, sans loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Paul prend bien soin de dire, c'est pas quelque chose de nouveau que je vous annonce. Comme Jésus disait, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Ce n'est pas une doctrine nouvelle. Les prophètes ont déjà annoncé que la vraie justice était la justice de Dieu par la foi. En ce Jésus-Christ que tout l'Ancien Testament annonçait. Et cette justice de Dieu par la foi était annoncée donc par les prophètes pour tous ceux qui croient. Et il dit qu'il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Juifs ou païens, tous sont coupables devant Dieu. Mais à tous ces païens et à tous ces juifs qui sont unis pour crucifier le Seigneur de gloire, Dieu, au lieu de les exterminer, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a offert sa grâce. La grâce est offerte à tous ces coupables, à tous ces pécheurs. On ne parle de grâce qu'à un coupable, qu'à un homme qui était condamné. Eh bien, nous sommes tous condamnés. Pour être perdu, qu'est-ce que vous devez faire? Rien. Vous l'êtes. Nous sommes perdus. De sorte que, pour être perdu, il n'y a rien à faire. On est perdu. Nous sommes coupables devant Dieu. Et si vous n'avez pas encore réalisé cela, demandez à Dieu qu'il vous le révèle. Fermez la porte de votre chambre, restez seul dans votre chambre, et puis dites à Dieu, révèle-moi de ce que je suis à tes yeux. Toi qui vois mes pensées, toi qui lis dans mon cœur, eh bien je vous promets que vous saurez que vous êtes coupable. Mais alors, qu'est-ce que Dieu va vous offrir? Bien, il vous offre sa grâce. Maintenant que vous avez réellement saisi, que vous êtes coupable devant Dieu, que vous avez transgressé ou sa loi, la loi naturelle, ou la loi de Moïse, ou que vous avez fait taire votre conscience, vous n'avez pas toujours écouté votre conscience, eh bien, qu'est-ce qui vous reste devant Dieu pour être juste? La grâce. Alors, il faut l'accepter. Oui, mais c'est humiliant. La grâce. Oui, mais voyez ce que c'est. Comment est-ce que vous prenez la grâce? La grâce, elle nous est donnée par quel moyen? Est-ce que c'est un coup d'éponge de Dieu? Dieu est un bon Père miséricordieux et il passe l'éponge sur nos péchés? Jamais. Parce que notre conscience n'aurait pas la paix. Si la grâce que Dieu nous accorde n'était qu'un coup d'éponge de sa miséricorde, eh bien, nous n'aurions pas le sentiment et la certitude d'être justifiés. Nous nous sentirions toujours accusés, toujours coupables. Mais voilà que Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils. Et son Fils, dans un corps de chair, semblable à celle du péché, mais sans péché, a pris nos péchés sur lui. Et le châtiment que nous méritions, la condamnation que nous méritions, que méritaient nos péchés, elle a été subie par qui? Par Jésus. Et le salaire du péché qui est la mort, cette mort, Jésus l'a subie à la croix. Il n'est pas mort pour lui, il est mort pour nous. Et s'il est mort, ce n'est pas à cause de ses péchés, c'est à cause de nos péchés. De sorte que nos péchés ont vraiment été expiés. Et Dieu serait injuste, si j'ose dire ainsi, en ne justifiant pas ceux qui ont la foi en Jésus. Parce que la dette a été payée par quoi? Par de l'argent? Par de l'or? Par la vie de Jésus. Son sang, c'est sa vie. Le sang, c'est la vie. C'est donc par la rédemption en Jésus-Christ, par ce moyen-là, que nous avons la grâce. La grâce qui vous est offerte repose sur une justice qui a été satisfaite. Quelqu'un est mort. Et quand un coupable est mort, la justice ne peut plus rien contre lui. Justice est faite. Eh bien, justice a été faite en Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Il a payé pour nous. Oh, le prix de la grâce dont a parlé le théologien Bonhoeffer, une expression que j'aime beaucoup. Le prix de la grâce, est-ce que vous savez ce que c'est? Vous êtes gracié, vous êtes sauvé par la grâce. Mais la grâce, c'est rien du tout pour vous. La grâce a coûté la vie de Jésus. Le prix de la grâce. Et c'est ça, la grâce de Dieu repose sur une justice qui est satisfaite. De sorte que dans notre conscience, maintenant, nous pouvons être libérés de ce sentiment de culpabilité. Vous ne devez plus rester avec le sentiment de culpabilité. Le diable voudrait toujours mettre en vous ce sentiment de culpabilité parce qu'il vous rappelle vos péchés, il vous montre vos péchés, même actuels ou vos péchés passés. Il vous en rappelle le souvenir. Et qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là? C'est là que la foi doit entrer en activité. La foi qui a saisi la grâce dit « Oui, c'est vrai tout ce que tu me rappelles, Satan. » C'est vrai ce que je suis si je me regarde. Je suis un pécheur. Mais Jésus est mort pour des pécheurs. Et moi j'en suis un. Si je sais que je suis sauvé, c'est parce que j'ai su d'abord que j'étais perdu. Et je ne me repose pas pour mon salut sur des bonnes actions que j'aurais faites ou sur les choses que je n'aurais pas faites. Je me repose sur l'expiation qu'a subi le Seigneur Jésus. C'est lui que Dieu a destiné, alors vous voyez verset 25, à être par son sang, c'est-à-dire par sa vie, pour ceux qui croiraient, c'est ça la foi, une victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, avant que Jésus vienne, il y a eu des hommes qui ont vécu. Et qui étaient des pécheurs aussi. Alors, pour qu'ils aient aussi, eux, une assurance concernant leur salut, Dieu leur avait donné un moyen. Je pense spécialement aux Juifs. C'était quel moyen? Quand ils avaient péché, qu'est-ce qu'ils devaient apporter au sacrificateur? Une offrande, une victime, un animal. Mais cet animal, il devait être sans défaut, sans tâche. Hein. C'était pas n'importe quel animal. Alors, le pécheur amenait l'animal devant le sacrificateur. Il mettait ses mains sur l'animal. Puis, qu'est-ce qu'il faisait? Il confessait ses péchés. Et l'imposition des mains, c'est l'identification avec l'être ou la chose sur laquelle on impose les mains. Alors, en mettant mes mains sur la tête de la victime et en confessant mes péchés, les péchés, en quelque sorte, passaient sur la victime, qui était égorgée à la place de qui? Du coupable. Et ça, c'était un enseignement qui préparait le peuple d'Israël au plus excellent sacrifice, car ce n'était pas le sang des taureaux, des agneaux et des boucs qui pouvait ôter le péché. Et il fallait toujours renouveler le sacrifice, jusqu'à ce que Jésus vienne et qu'il soit déclaré l'agneau de Dieu qui ôterait le péché du monde et qui remplacerait tous les sacrifices. Jésus a été réellement cet agneau qui, par son sang versé, a effacé tous nos péchés. De sorte que tous les saints de l'Ancien Testament, quand ils mettaient leurs mains sur une victime, eh bien, ils manifestaient qu'ils croyaient la parole de Dieu. Ils obéissaient, la foi est une obéissance, ils obéissaient à ce que Dieu avait commandé, ils acceptaient ce moyen, mais le pardon de leurs péchés, qui allait le leur donner? C'est le Seigneur. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu a supporté les péchés de ceux qui avaient vécu auparavant. Donc, l'Israélite qui avait la foi, il offrait le sacrifice en pensant déjà, parce que c'était écrit, qu'il viendrait un libérateur, en pensant à celui qui viendrait et qui serait le seul sacrifice. Et quand Jésus, lui, pardonnait les péchés aux gens qu'il rencontrait comme à la femme adultère, qu'est-ce qu'il faisait? On disait, mais comment celui-ci peut-il pardonner les péchés? La femme adultère, qu'est-ce qu'elle méritait, selon la loi? La mort. Alors, si Jésus pardonnait son péché, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un coup d'éponge? Il était plus gentil que les autres? Il était plus coulant? Bon, qu'est-ce que c'est que l'adultère? Non. Il lui pardonnait parce qu'il prenait son péché à son compte. C'est pour ça qu'il fallait que Jésus mourût. C'était pas possible. Hein. Il avait pardonné les péchés, mais il avait le pouvoir de pardonner les péchés parce que lui-même allait les expier. Il prenait les péchés qu'il pardonnait à son compte, de sorte que Jésus ne pouvait pas ne pas mourir. Il fallait que nos péchés soient expiés. Il fallait que la sainteté de Dieu soit satisfaite, que sa justice soit manifestée. Dieu ne passe pas l'éponge sur le péché. Le péché, son salaire, c'est la mort. Eh bien, nos péchés à nous ont été expiés. Les péchés des hommes de l'ancienne alliance ont été expiés par le sang de Christ. Et puis nous, nos péchés, nous qui vivons après le Christ, nos péchés sont expiés par le sang qui a été versé. De sorte qu'il n'y a qu'un moyen de salut, il n'y a toujours eu qu'un moyen de salut, la foi. C'était donc la foi en celui qui devait venir, qui sauvait l'Israélite croyant. Et puis nous, notre salut, c'est la foi en celui qui est venu et qui reviendra. Alors Dieu est juste, maintenant vous voyez verset 26, il montre sa justice dans le temps présent, de manière à être juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Si vous avez la foi en Jésus, vous êtes donc justifié par son sacrifice. Mais alors, où donc est le sujet de se glorifier? Quand on fait des bonnes œuvres, qu'est-ce qu'on fait? La plupart du temps, on se glorifie, hein? On s'attribue quelques mérites. On parle de nos mérites. Mais non. Mais si c'est Jésus qui a tout payé, est-ce qu'on a un sujet de nous glorifier? Qu'est-ce qu'on peut dire? Je donne toute gloire à Dieu. Il est réellement mon sauveur. Ça veut dire quelque chose. Il est mon sauveur. Je n'ai plus sujet de me glorifier. La justification par la foi m'enlève tout moyen de me glorifier. Il est exclu. Mais par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Parce que quand on fait des œuvres, on se glorifie. Mais par la loi de la foi. Puisque c'est en croyant, je m'approprie cela. Et cette foi qui m'est donnée, c'est une grâce. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Alors attention, ici, l'apôtre Paul se place sur le terrain de Dieu. Dieu qui connaît les cœurs. Lui, il voit si réellement votre foi est authentique. Alors, Paul, lui, il se place du côté de Dieu. Et il peut dire, aux yeux de Dieu, l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Parce que Paul nous montre que Dieu sait réellement si vous avez la foi, disons, une foi réelle. Dieu n'a pas besoin que vous fassiez des œuvres pour voir que vous avez la foi. Lui, il sait, avant que vous fassiez des œuvres, il sait que vous avez réellement la foi, puisqu'il connaît tout. Il connaît les cœurs. C'est pour ça qu'il est dit que Jésus, lui, il ne se fiait pas à ceux qui disaient qu'il croyait, parce qu'il connaissait leur cœur. Verset 29. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Parce que les Juifs, eux, ils pensaient qu'ils pouvaient être juste par leurs œuvres. Mais Paul démontre que c'est pas possible. Et puis alors, il y aurait que l'Égypte qui serait sauvée? Non. Est-ce que Dieu n'est pas aussi le Dieu des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis. C'est qui? C'est les Juifs, et puis les incirconcis, c'est les païens. Et pour bien montrer que le salut par grâce, que la grâce, Dieu voulait l'accorder à tous, eh bien, vous avez le chapitre 4 qui va vous le montrer. Et l'apôtre Paul pose cette question, verset 31, annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. La loi n'était pas donnée pour nous rendre justes. Mais pourquoi? Pour nous convaincre de péché. Parce que là où il n'y a pas de loi, on ne sait pas que c'est le péché. Hein. Mais quand la loi est là, puis qu'on transgresse, on voit que c'est le péché. Alors le rôle de la loi, c'était pas de nous rendre justes, mais c'était de nous convaincre de péché. Il était dit, faites ces choses et vous vivrez. Mais si ces choses n'étaient pas faites, qu'est-ce que la loi allait nous apporter? Si nous n'accomplissons pas la loi, c'était la mort. Là où ces choses n'étaient pas faites, la loi apportait la condamnation et la mort. Alors on ne pouvait pas s'en tirer. Mais le rôle de la loi, eh bien, il est juste. C'est de nous convaincre de péché et c'est de nous amener à Christ. De nous amener à reconnaître qu'on ne peut pas s'en sortir par nous-mêmes. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici qui croit qu'il peut s'en sortir par lui-même? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui croit qu'il peut se sauver par lui-même et qu'il pourra se tenir un jour devant Dieu et dire, tu vois, voilà, ceci. Oh, que le Saint-Esprit nous saisisse et nous donne cette conviction. Moi, c'est cela, un jour, et j'avais 13 ans seulement, quand j'ai réalisé cela, mais si je dois paraître devant Dieu, je suis... Pourtant, j'étais un enfant de chrétien, j'avais été élevé d'une façon très stricte, etc. Mais J'ai réalisé que devant Dieu, quand à mes pensées, quand à tout ce que qui pourrait se passer si mes pensées devenaient des actes ou devenaient des paroles comme je voyais autour de moi, mais moi j'étais gardé par l'éducation que j'avais reçue, mais je savais très bien qu'il y avait en moi tout en germe. Et je me suis dit, mais je suis perdu. Ce qui nous perd, c'est de nous garder nous-mêmes. Ce qui nous sauve, c'est de nous donner. C'est de l'accepter. J'ai besoin d'un sauveur. Alors, le chapitre 4 va nous démontrer que la foi, la justification par la foi, c'est pas une nouveauté que Paul introduit dans le monde, mais que c'est toujours par la foi que les hommes ont été sauvés dans tous les temps. Alors, il prend comme exemple Abraham. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il aurait sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Qu'est-ce qu'il dit l'Écriture? Dans la Genèse. Lisez la Genèse. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. C'est parce qu'il a cru ce que Dieu lui disait, que Dieu l'a déclaré juste. Quand est-ce que c'est qu'on est juste? C'est quand on croit ce que Dieu nous dit. Comprenez-vous? Vous devenez juste dès l'instant où vous donnez raison à Dieu. Dieu qui peut ni se tromper, ni vous tromper, Dieu vous parle. Puis je dis, oh Dieu, tu as raison. Mais quand Abraham a cru, il avait tout pour ne pas croire. Il était âgé, Dieu lui dit qu'il aurait un fils. Et il croit ce que Dieu lui dit. Et c'est cela qui lui fut imputé à justice. Verset 4. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et c'est facile à comprendre, ça. Je ne crois pas que vous avez une difficulté. Hein. Si on fait une œuvre, s'il y a un salaire, eh bien, c'est pleine grâce. Le salaire lui est imputé comme une chose due. J'ai fait une œuvre, vous me devez quelque chose. Mais à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a le sentiment qu'il est un impie? Vous avez déjà eu ce sentiment qu'on est des impies? Oui. Mais pour qui est-ce que le Seigneur est venu? Pour les impies. Et qui est-ce qui peut être justifié? Les impies. Quand le diable te fait croire qu'il n'y a pas de justification possible pour toi parce que tu es trop mauvais, c'est Satan et c'est un menteur. Alors, arrière de moi, Satan. Il voudrait nous nier la valeur de l'œuvre de Christ. Christ est mort pour des impies. Dieu constate l'amour qu'il a eu envers nous en que lorsque nous étions des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et si vous croyez cela, vous êtes rendu juste. Et puis, c'est pas seulement Abraham qui a connu cela, mais David. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. C'est le psaume 32e. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Mais à qui notre péché a-t-il été imputé? À Jésus sur la croix. Notre péché, le péché que moi j'ai commis, mes péchés, ils ont réellement été expiés, mais dans la chair d'un autre, la chair de Jésus-Christ. Mes péchés ont été jugés dans sa chair, et maintenant je sais que je suis justifié, pardonné. Alors c'est le bonheur quand on fait ça. La dette, elle est payée. Comme je l'ai dit souvent, quand quelqu'un a payé vos dettes, votre créancier n'a plus le droit de vous réclamer quelque chose. C'est vous qui avez payé? Non. Mais quelqu'un a payé pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste, vous? Une dette de reconnaissance envers celui qui a payé pour vous. Alors, vous l'aimez. Il naît vraiment une reconnaissance et un grand amour pour celui qui a fait une telle œuvre. Et c'est le bonheur. Ce bonheur est-il seulement pour les circoncis? Est-ce que c'était seulement pour les Juifs que Jésus est venu? Ou est-il également pour les incirconcis? Est-ce que c'est aussi pour les païens que Jésus est venu? Oui. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Mais quand donc lui fut-elle imputée? Et vous voyez l'argument de Paul. Quand est-ce que Dieu lui a dit qu'il était juste? Après qu'il a été circoncis? Avant, il n'était pas encore circoncis. Et Dieu lui dit qu'il est juste parce qu'il a cru. Et comme signe de sa foi, il lui a donné la circoncision. Mais donc, c'est avant qu'il soit circoncis que Abraham a été déclaré juste. C'est cela qu'il veut dire. Quand donc fut-elle imputée, cette justice? Est-ce après ou avant la circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis, donc ce n'est pas la circoncision qui nous donne la justice. Ce n'est pas de faire partie de telle religion qui nous rend juste. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice. Pour ce qu'il se rappelle qu'il était justifié, il portait en lui-même ce signe de la circoncision, cet enlèvement d'une partie du prépuce chez l'homme, qui était le signe qu'il était justifié. Mais ensuite, on a pu se rendre compte que on pouvait être circoncis et ne pas être justifié. C'est foi qui justifie. La circoncision n'était que le signe. Comme aujourd'hui, est-ce que c'est le baptême qui sauve? C'est la foi qui sauve. Et vous recevez comme signe de votre salut le baptême. Il était incirconcis avant d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Donc, tous ceux qui croient, qui ne sont pas de race juive, peut-être, peuvent être sauvés. Abraham, lui, il a été sauvé avant la circoncision. Elle était sauvée par la foi et non pas par les vœux. Pour que la justice leur soit imputée. Et il est aussi le père des circoncis, c'est-à-dire des juifs, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore, il faut pas seulement être circoncis, ou il faut pas seulement être baptisé, il faut marcher sur les traces de la foi qu'a eu notre père Abraham. Eh bien, j'espère que vous allez continuer de méditer là-dessus et chercher ces traces. Ce serait un sujet passionnant de méditer sur les traces de la foi qu'a eu notre père Abraham. Vous reprenez la Genèse et puis vous voyez quelles sont ces traces de la foi qu'a eu notre père Abraham. Et nous continuons, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine. Et la promesse est annulée. Si on avait pu se rendre juste par la loi, il n'y aurait pas eu besoin de la grâce. Et il n'y aurait pas eu besoin de la justice par la foi. Car la loi, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit la colère, puisqu'on ne l'accomplit pas. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Parce que ce qui a montré justement la grandeur du péché, c'est la venue de la loi. Mais même quand il n'y avait pas de loi, il y avait le péché qui était là, mais il n'était pas compté. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, c'est-à-dire aux Juifs qui croient, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Il a cru Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà la foi d'Abraham. Ça rejoint exactement le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. On lui dit qu'il aurait un fils alors qu'il est un vieillard et que sa femme n'a plus la possibilité d'avoir d'enfants. Eh bien, espérant, voilà le caractère de la foi, verset 18, espérant qu'en toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, de ces nations dites chrétiennes, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et verset 19, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps qui était déjà usé. Mes amis, vous êtes en train de considérer votre état. Qu'est-ce qui vous arrive alors? Quand vous considérez votre état, quand vous vous regardez vous-même, c'est le découragement. Si vous voulez continuer à vous regarder vous-même, vous serez découragé. Et c'est pas cela que fait la foi. La foi vous fait lever les yeux sur Jésus. C'est Jésus que vous devez regarder. C'est lui qui est votre vie. Votre vie à vous, celle que vous voyez, elle n'est plus là. Oui, elle est là, vous la voyez en vous. Mais où est-elle aux yeux de Dieu? Où a-t-elle fini votre vie? À la croix. Parce que Jésus n'a pas seulement pris vos péchés quand il est allé à la croix. Il vous a pris vous-même. Et quand il a été crucifié, vous avez été crucifié. Vous êtes, quand il est mort, vous êtes mort avec lui. Mais vous dites, mais moi je suis pas du tout mort, je suis vivant. Oui, mais la foi dit, tu es mort. Tu le crois? Tu le crois parce que tu le sens? Vous ne sentez pas que vous êtes mort. Mais la foi vous dit que vous êtes mort. Et si vous continuez de lire cet épître aux Romains, il dit, considérez-vous pour mort. C'est pourquoi la foi, c'est quelque chose de tous les jours. La foi me rappelle que je suis mort. Quand je me regarde et que je me vois misérable, je sais très bien qu'un mort ne s'améliore pas. Alors, il n'y a pas à attendre des progrès. Si je me regarde, je suis toujours misérable. Mais ma vraie vie, c'est celle de Christ. Et Dieu ne me voit plus qu'à travers les perfections de son Fils. Celui qui doit occuper notre pensée, captiver notre pensée, c'est qui? C'est le Christ. Il est votre vie. Christ est ma vie, dit saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis dans la chair, parce qu'on est encore dans la chair, est-ce qu'il dit je le vis selon la chair? Je le vis d'après ce que je vois chez moi? Non. Je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Je le vis dans l'autre. Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mais voilà ce que fait la foi. Mais la foi, c'est étant l'activité constamment, c'est une activité quotidienne, c'est pourquoi il est dit, le juste vivra de foi. Vous êtes sauvés par la foi pour vivre quotidiennement une vie de foi. C'est ça le grand salut de Dieu. Alors, nous avons toujours cet exemple d'Abraham. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Au lieu de vous décourager, ayez la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il peut l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Dieu l'a déclaré juste. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il ait écrit cela, que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Est-ce que vous faites partie de ce nous? C'est encore à cause de nous que cela sera imputé à nous qui croyons. Alors là, la question est là. Est-ce que vous le croyez? à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, notre Seigneur. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que Jésus, mort pour vous, a été ressuscité, lui qui était livré pour nos offenses, et qu'il est ressuscité pour notre justification? Comment est-ce qu'on sait que Dieu maintenant a agréé le sacrifice de Christ? C'est parce qu'il l'a ressuscité. Alors on sait que nous sommes justifiés. Il est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, qu'est-ce que nous avons maintenant? La paix avec Dieu. Et puis nous avons trouvé accès à cette grâce. Nous sommes dans la grâce. Et puis, pour l'avenir, nous avons la gloire. Et c'était l'exposé de Paul. Maintenant, prenons celui de Jacques. Jacques, chapitre 2. Qui était ce Jacques? Bien, on pense que c'est le Jacques dont il est parlé dans le chapitre 15 de la première aux Corinthiens. Ce Jacques qui a vu le Seigneur ressuscité. Le Seigneur est apparu à Jacques, il a dit. Et on pense aussi que c'était un des frères du Seigneur. Et vous savez que les frères du Seigneur, pendant tout un temps, ils ne croyaient pas en lui. Et alors il a dû avoir lui aussi, lui qui était pourtant un frère du Seigneur, il a dû avoir cette révélation de la résurrection. Alors Jacques connaît maintenant le Seigneur. Il sait que le Seigneur a eu pitié de lui et qu'il a usé de miséricorde envers lui. Alors qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 2. Mes frères, que votre foi, donc de quoi est-ce que Jacques va parler? De la loi? Non, il va parler de la foi. De la foi en qui? Il ne parle pas d'autre chose que ce dont Paul parle. Paul parle de la foi. Et il nous montre qu'on est justifié par la foi. Mais la foi en qui? En Jésus-Christ. Alors Jacques continue en quelque sorte. Il n'est pas en contradiction avec moi, mais il dit, mes frères, que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Donc vous devez avoir les yeux fixés sur Jésus. Que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, il l'a vu glorifié, soit exempte de tout favoritisme. Vous avez la foi au Seigneur Jésus. C'est-à-dire, vous devez imiter alors le Seigneur Jésus. Vous devez laisser le Seigneur Jésus vivre en vous. Alors, il donne tout de suite un exemple. Si vraiment vous avez la foi qu'avait le Seigneur, et que vous laissez la vie du Seigneur vivre en vous, se manifester en vous, il vous montrera ce que vous devez faire. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Est-ce que Jésus ferait cela? Vous connaissez l'évangile, hein? Non. Vous dites que vous avez la foi au Seigneur Jésus, mais quand on a la foi au Seigneur Jésus, on a une autre vue des choses. Vous croyez que ça nous impressionne de voir une femme qui a un anneau d'or et qui a des colliers, qui a tout ce que vous voulez, et que c'est ça qui va nous conduire à l'accueillir? Mais c'est pas ces choses-là, c'est pas ces parures extérieures, la foi, elle n'a que faire de cela. Vous pouvez vous en mettre par-dessus, par-derrière, par-devant, tout ce que vous voulez, mais c'est pas ça qui va m'influencer, ça c'est votre homme extérieur. Et puis, même si vous prenez tout ça dans votre cercueil, ça n'y changera rien. Ça incitera les voleurs. Allez vous déterrer. Si pas ces choses-là extérieures, nous ne sommes plus conduits par ces ornements extérieurs. Tout cela s'est passé. On a une autre vue. Notre foi au Seigneur Jésus nous fait regarder Jésus. Et on voit la beauté de quoi? De l'âme. L'homme caché du cœur. Et même chez un homme qui a des vêtements de pauvre, presque des haillons, il peut y avoir une âme précieuse. C'est une âme précieuse au cœur du Seigneur. Alors nous ne sommes plus conduits comme autrefois. Le monde peut faire ses distinctions, mais nous n'avons plus à les faire. Nous ne ferons plus ces distinctions. Alors écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Ça rappelle quoi, cela? De l'enseignement du Seigneur. Le sermon sur la montagne. Vous avez la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'a-t-il dit le Seigneur Jésus-Christ? Bienheureux les pauvres en esprit, pas seulement les pauvres dans les choses de l'argent, mais ceux qui ne se croient pas riches, qui ne vont pas les riches. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en foi? Les disciples qu'il a choisis, c'était des gens riches? Non, c'était les pauvres de ce monde. Mais il leur a donné les vraies richesses. Est-ce que nous désirons être riches en foi? Vous voyez que c'est cela qui devrait nous préoccuper. Être riche en foi. Avoir une foi qui augmente. Pas simplement des capitaux en banque qui augmentent. Mais une foi qui augmente. Parce que les capitaux, on pourra les perdre. Mais la foi, on ne la perd pas. On ne peut pas perdre la vraie. On peut s'éloigner de la foi des vérités du christianisme, mais la foi qui nous sauve, c'est confiance totale, non. Le Seigneur, peut-être qu'elle baisse à certains moments, mais si c'est la vraie foi, c'est une semence qui reprend. Il a choisi ceux qui sont riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Le royaume, il est promis à qui? À ceux qu'il aime. Quand il y a la foi, il y a aussi l'amour. La foi ne va pas sans l'amour. Et vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ça, c'était au temps des persécutions. N'est-ce pas eux qui vous outragent et qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Ça, c'est le commandement qui résume tous les autres. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi comme transgresseur. Parce que la loi subsiste. Alors, et si vous faites ça, bien, vous devenez pécheur sous la loi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable sur tous. Donc il est tout à fait d'accord avec Paul qu'on ne peut pas être justifié par les œuvres de la loi. De sorte que les œuvres dont parle Jacques, comprenez-le bien, je le répète, ce sont les œuvres de la foi. Tandis que les œuvres dont parlait Paul, c'était les œuvres de la loi. Les œuvres dont parle Jacques, c'est les œuvres de la foi, parce qu'il dit bien que les œuvres de la loi, eh bien, si on manque sur un point, on est coupable sur tous les autres. Donc on ne peut pas être justifié, parce que quel est l'homme qui peut dire qu'il accomplit toute la loi? Donc Jacques est tout à fait d'accord. Verset 11. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Si tu ne commets point adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe vis-à-vis du jugement. Et on peut bien penser que Jacques a connu la miséricorde parce qu'il en parle. Pour pouvoir être miséricordieux, il faut que miséricorde nous ait été faite. Et lui qui autrefois ne croyait pas au Seigneur Jésus, parce qu'il est bien dit que ses frères ne croyaient pas en lui, eh bien, il a su ce que c'était aussi que la miséricorde.
Alors il nous exhorte à être miséricordieux. Si vous avez la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, vous devez porter les caractères de Jésus. Qu'est-ce qu'il était, Jésus? Doux et humble de cœur. Et si on a la foi au Seigneur Jésus, on a sa douceur et aussi son humilité et aussi sa miséricorde. On est miséricordieux. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire? Parce que voilà, c'est là la grande question. On dit qu'on a la foi. Mais à quoi ça sert de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Mais notez bien que c'est les œuvres de la foi. Cette foi, on dit qu'on a la foi, cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dit « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? C'est tellement naturel. Si on a la foi au Seigneur Jésus, et qu'on voit vraiment quelqu'un qui manque du nécessaire, eh bien Dieu nous met à cœur, non simplement de lui dire « je vais t'annoncer le salut », mais de pourvoir aussi à ses besoins. Mais alors, vous savez, il peut y avoir des abus, et en dirigeant pendant des années le refuge à Nice, une œuvre qui se continue par mes enfants, eh bien, j'ai eu de ces cas des gens qui ne veulent pas travailler et qui disaient qu'ils avaient faim et qui venaient là. Bon, ils avaient faim, bon, je les prenais à table pour leur donner quand même à manger. Mais après, je leur parlais, mais vous voyez, d'où vient cette situation dans laquelle vous vous trouvez? Parce que il faut un peu sonder le pourquoi de la pauvreté. Je lui disais, vous savez, c'est quand même bizarre parce qu'il a dit que les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais pourtant leur Père céleste les nourrit. Puis il a dit que les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent, et pourtant, Salomon dans toute sa gloire n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Puis vous me dites que vous n'avez rien pour vous vêtir, mais donc alors, vous êtes plus malheureux que les oiseaux du ciel? Vous valez moins que les lys des champs? Vous n'avez pas de père. Alors on peut commencer par parler du père. Mais bien sûr, c'est pas pendant qu'il a le ventre creux que je m'en vais lui parler de ça. On va d'abord lui donner à manger. Ou s'il a froid, on va d'abord peut-être le couvrir. Mais on va lui montrer que il ne doit pas rester dans cet état-là. S'il s'approche de ce père des cieux, eh bien, sa situation change. Parce que ça, c'est le tonneau des Danaïdes. Hein. Vous pouvez toujours donner, et il reste pauvre. Mais quand le Seigneur entre dans un cœur, il y apporte l'ordre, il y apporte le goût du travail, parce qu'il y en a qui sont pauvres parce qu'ils sont paresseux, il y en a qui sont pauvres parce qu'ils ont eu des circonstances difficiles, et c'est cela qu'il faut voir. Mais il y a une pauvreté et qui ne doit pas rester la pauvreté. Quand il ne va pas vous donner la richesse, mais il va vous donner ce qui est nécessaire. Et si on entre en relation avec le Seigneur pourvoit à nos besoins. Alors c'est là qu'il faut avoir du discernement. Alors il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle. La foi, elle est agissante par l'amour, nous dit Paul dans les Galates. Elle nous amène à une action. Mais une action qui est une action sage, un discernement. Mais alors quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Mais donc vous voyez qu'il est toujours question ici des œuvres de foi. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Mais les démons aussi croient et tremblent. C'est un verset que je vous ai cité. C'est pas de croire que Dieu existe, la foi. C'est croire ce qu'il nous dit. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres, elle est morte. Voilà. Un caractère de la foi, c'est que la foi est réellement vivante. Si c'est la vraie foi. La vraie foi
c'est une foi vivante, c'est une foi qui agit, mais c'est une foi aussi qui est un discernement. Et alors je dirais ici, simplement que Paul, lui, se plaçant du côté de Dieu, Dieu qui sonde les cœurs, Dieu peut dire qu'il n'y a pas besoin des œuvres pour savoir qu'il y a la foi. Dieu n'a pas besoin de voir nos œuvres pour savoir qu'il y a la foi. Il voit dans notre cœur la foi. Mais Jacques, lui, eh bien, il se place à un autre point de vue. Le monde, lui, si vous lui dites que vous avez la foi, est-ce qu'il la voit, la foi? C'est vous qui le dites. Mais qu'est-ce qu'il touchera? Jésus l'a enseigné. Il nous montre que les hommes seront amenés à croire s'ils voient nos bonnes œuvres. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils croient. Et qu'ils croient, c'est par les œuvres de la foi que le monde peut être amené à désirer posséder la même foi. Alors, il n'y a pas donc de contradiction entre ce que Paul dit et ce que Jacques dit. Paul nous montre que pour Dieu, c'est la foi qui sauve. Il n'y a pas besoin des œuvres extérieures. Mais la foi dont parle Paul, c'est une foi qui produira des œuvres. Et il dit que Dieu désire qu'on soit les premiers dans les bonnes œuvres. Mais ce ne sont plus des œuvres que nous faisons pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Comprenez-vous? Les œuvres du chrétien ne sont pas faites pour mériter le salut, mais parce qu'il nous a donné le salut. C'est des œuvres qu'on fait par reconnaissance. Tandis que, ce que montre Jacques, eh bien, il dit, si vous voulez qu'on croie que vous avez réellement la foi, eh bien, montrez les œuvres de la foi. Pas les œuvres de la loi, mais les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi sont des œuvres de vie, des œuvres de reconnaissance. Mais ces œuvres de la foi, le monde ne les comprend pas, parce que vous voyez que Jacques prend aussi deux exemples. Il prend l'exemple d'Abraham. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Et vous vous rendez compte de ce qu'a fait Abraham? Les œuvres de la foi dont parle Jacques, elles sont pour l'œil de Dieu, mais elles ne sont pas pour les hommes. L'homme naturel, est-ce que vous croyez qu'il admettrait qu'un homme tue son fils? Hein? Vous croyez qu'un homme naturel admet qu'un homme tue son fils? Qu'est-ce qu'il faisait Abraham? Il avait tué qui? Son fils. Et c'est ça qui va le justifier? Donc le monde n'y comprend rien à ça. C'est quelque chose qui se passe entre lui et Dieu. Et il n'a pas été proclamé partout. Vous savez, hein, je vais sacrifier mon fils. Vous allez voir comme je fais ça? C'est pas une brebis que j'ai égorgée, j'ai égorgé mon Isaac. Venez voir. Non. C'est une œuvre, c'est une obéissance qui était cachée, qui était secrète. Dieu lui avait dit cela. De sorte que vous voyez que cet acte de foi, il n'est pas compris. Il n'est pas compris par le monde. Les œuvres de la foi ne sont pas comprises par le monde. Mais pourtant, c'est par cette œuvre que sa foi fut rendue parfaite. Il a connu l'épreuve de la foi. Cette épreuve de la foi plus précieuse que celle de l'or qui périt. Et il a glorifié Dieu. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Il a montré Abraham qu'il était prêt à mettre
sur l'autel ses affections les plus chères. Nous, qu'est-ce qu'on a mis sur l'autel? Quelle est notre Isaac à nous? Abraham est allé jusqu'à mettre sur l'autel Isaac. Dans son obéissance. Elle était appelée amie de Dieu. Le monde ne peut pas comprendre ça. Vous voyez bien que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Mais vous ne devez donc jamais séparer la foi et les œuvres. Elles vont toujours ensemble.
Mais les œuvres qui justifient un homme sont les œuvres de la foi. Et la foi qui justifie un homme, c'est la foi qui produit des œuvres.
Voilà Paul. La foi qui justifie un homme, c'est la foi qui produit des œuvres. Et puis, les œuvres qui justifient un homme, chez Jacques, c'est les œuvres qui sont produites par la foi. Parce que c'est par la foi qu'Abraham obéit pour aller offrir Isaac en sacrifice. Puis maintenant, il prend comme autre exemple Rahab. Ce qu'elle a fait, c'est pas compris du monde. Comment est-ce que le monde verrait cela? Qu'est-ce qu'elle fait, Rahab? Elle trahit son pays. Donc Rahab, c'est une espionne. Rahab est une espionne. Le monde ne peut pas comprendre cela. Mais Dieu voit pourquoi elle fait cela. Et elle est justifiée par les œuvres. Mais, et la fenêtre, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais qu'est-ce qui l'a conduit à faire cela? C'est sa foi. Sa foi en quoi? Elle a su ce qui se passait en Israël. Elle a su ce que Dieu avait dit de ce peuple, que ce peuple arriverait à conquérir le pays de Canaan. Et elle a vécu dans la crainte du Seigneur. Et si elle a reçu les épées, c'est parce qu'elle croyait à la vocation d'Israël. Et c'est ainsi qu'elle a été sauvée. C'est comme Noé, dont vous avez lu l'histoire, enfin le rappel, dans le chapitre 11 des Hébreux. Si Noé s'était contenté d'être averti par Dieu qu'il y aurait le déluge, eh bien, il aurait su qu'il y aurait le déluge, mais il périssait dans le déluge comme les autres. Et qu'est-ce qu'il a dû faire? Construire l'arche. Il a construit son arche. Travaillez à votre propre salut. Puisque vous êtes sauvés, travaillez maintenant à votre propre salut. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Non sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquons. Vous ne pouvez pas séparer la foi des œuvres et les œuvres de la foi. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres, c'est ce qui la caractérise, elle est morte. Elle est morte. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, ça peut s'appliquer aux frères, mais ça peut, c'est quelqu'un qui entre dans, et c'est probablement pas quelqu'un qui connaît la foi, là. Dans ce que nous lisons dans Jacques, hein. Reprenons le chapitre 2 de Jacques, n'est-ce pas? Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or. Il n'est peut-être pas croyant. Et il y en a qui peuvent venir, des gens du monde. Oui, alors là, ce qui est dit au début, c'est donc d'un homme n'importe qui, hein, croyant ou pas croyant, que nous recevons pour peut-être pour la première fois. Mais ensuite, alors, évidemment, si c'est du verset 15, mes frères, si quelqu'un, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œufs? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. Ne pas s'occuper des gens de, ça c'est la maison de la foi, n'est-ce pas? Nous devons faire du bien à tous et principalement à ceux de la maison de la foi. Mais, quand il se trouve justement qu'un frère non, un frère croyant ou une sœur se trouve dans cette situation, eh bien, nous n'aurons pas que des paroles. Nous devrons peut-être l'assister, mais chercher aussi à faire cesser la cause de cette pauvreté. Parce que c'est pas normal que des personnes croyantes soient tout le temps dans cet état. Alors là, il faut user de discernement et puis chercher à les aider pour que cette cause de pauvreté disparaisse. Parce que la pauvreté, dans l'écriture, elle ne peut être qu'accidentelle. Je ne parle pas de la richesse, hein. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, nourris-moi du pain qui m'est nécessaire. Mais il faut discerner quelle est la cause de la pauvreté. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Il faut avoir de la compassion, mais il faut aussi avoir du discernement, parce qu'on n'aide pas toujours les gens en leur donnant, simplement. Parce qu'alors ils comptent là, sur ça, et puis, voilà, ils se laissent aller. Parce qu'il y en a eu dans l'église primitive, il y en a qui ne voulaient plus même travailler, et qui comptaient sur l'église. Alors c'est pas cela. Ça crée du désordre. De sorte que le Seigneur dit que notre Père sait que nous avons besoin de toutes ces choses. Il ne nous a pas promis de nous donner des anneaux d'or. Il dit quoi, mais il nous a promis de nous donner le nécessaire. Et une autre question? Ah ben, vraiment, si c'est un abus, je pense que le Seigneur nous montrera que, d'abord, si la personne, par exemple, est capable de travailler et ne veut pas travailler, eh bien, là, vous avez de nouveau la parole qui va nous enseigner, non pas mes idées, moi je veux pas avoir de la dureté, mais il ne faut pas encourager non plus la paresse. Hein. Alors, l'apôtre Paul a écrit là-dessus. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu, nous, dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le et n'ayez pas de relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. C'est pas moi qui vous le dis. Oui, mais c'est en vue de le ramener, c'est en vue de le faire réfléchir.
Vous savez, il y a des drôles de personnages que l'on rencontre. J'ai dit, je vois que c'est un gars qui est encore fort, il a tout, il dit qu'il a faim, bon, il n'a pas de vêtements, bon, on pourvoit ça. Puis j'ai dit, mais alors, mon cher ami, vous savez, on a un jardin ici, est-ce que vous êtes d'accord de travailler un peu dans mon jardin? Oh, vous savez, j'ai mal au rein. Alors, c'est signé. Vous comprenez? Alors, Dieu ne nous demande pas d'être stupide. Vous savez, on ne peut pas établir une règle comme ça. Il faudrait d'abord voir les enfants, ce dont ils ont réellement besoin. Mais, oui, j'ai eu un téléphone l'autre jour à ce sujet. Mais dans la mesure où une femme peut se rendre quand même indépendante, peut trouver un travail, mais sans négliger non plus les enfants, c'est bien. Mais ça, on ne peut pas établir une règle. Il faut voir, on peut voir chaque cas d'une façon individuelle. Parce que ce serait dangereux que moi je vous dise ceci ou cela. Il faut voir. Et puis alors, là, c'est une question, si elle fait partie de l'Église, c'est une question qui se règle dans l'Église. C'est pas moi qui peut régler cette question. Ce sont ceux qui connaissent la personne et qui peuvent juger si c'est mieux qu'elle s'occupe vraiment de ses enfants et que on voit à pourvoir à ses besoins. Je dirais que ce sera aussi que momentané, une fois que les enfants grandissent, peut-être que la femme sera libérée pour pouvoir faire aussi un travail. Il y a une autre question? Tu peux parler un peu plus fort? Du jugement du Seigneur, parce qu'on sera examiné devant le Seigneur, que nous soyons chrétiens ou que nous soyons incroyants, mais ici il est parlé plutôt des croyants. Nous serons tous examinés devant le tribunal de Christ. Je suis dans les reprenons Jacques 2. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de la liberté. Qu'est-ce que c'est cette loi de la liberté? Qu'est-ce qui est demandé là? Quel est le grand commandement? C'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si réellement l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs, elle me fait voir dans mon prochain, celui que je dois aimer. Et alors, si Dieu m'a fait miséricorde à moi, bien qu'est-ce que je dois faire aux autres? Je dois user de miséricorde. Le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Si je ne fais pas miséricorde, je n'appartiens pas au Seigneur. Parce que quel est mon Seigneur? Qu'est-ce qu'il est, mon Seigneur? Il est miséricordieux. Alors si je dis que j'ai la foi du Seigneur, je serai un homme miséricordieux. Mais si je n'ai pas de miséricorde, ben je n'appartiens pas au Seigneur. J'ai beau dire que je suis au Seigneur. Voyez-vous, c'est cela. Et je voudrais terminer simplement avec cela sur, parce que je me rends compte que nous n'avons fait qu'effleurer ce grand sujet de la foi, dont le fondement et l'objet, ce sont les faits divins. On a dit que la foi est la ferme conviction des choses qu'on espère, l'absolue certitude des faits qu'on ne voit pas. Alors, quels sont ces faits certains qui constituent à la fois le fondement et l'objet de la foi? Un fait certain, c'est que Dieu est. Hein, Dieu est. Parlant à Moïse, qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis celui qui est, ou qui suis. Exode 3. Alors, il faut que celui qui s'approche de Dieu, vous l'avez lu, croit que Dieu est, que Dieu existe. On part de là, hein. On croit que Dieu existe. Hébreu 11. Un autre fait certain, maintenant, je sais que Dieu est. Alors, qu'est-ce que Dieu est? Il est tout puissant. Il dit, et la chose arrive, il ordonne, et la chose existe. Il est dit que les perfections invisibles de Dieu se manifestent dans la création, sa puissance éternelle et sa divinité. Mon Dieu est tout puissant. Voilà. Ça, c'est un fait certain. Ma foi en est absolument certaine de ça. Maintenant, un autre fait certain, c'est que Dieu est parfaitement sage. En Dieu réside la sagesse et la force, le conseil et l'intelligence qui appartiennent. Il est parlé du Dieu qui est seul sage. C'est pourquoi il faut de la sagesse. Si je suis en relation avec le Dieu Tout-Puissant, il me donnera une puissance qui n'est pas en moi-même. Si je suis avec la relation, en relation avec le Dieu sage, il me donnera une sagesse qui ne vient pas de ce monde. Puis un autre fait certain, c'est que Dieu est saint. Soyez saints car moi je suis saint. Je suis Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi. Donc, nos actes aussi doivent manifester cette sainteté. Un autre fait qui est certain, c'est que Dieu est juste. Si vous me parlez ou si vous avez des doutes là au sujet de la justice de Dieu, vous ne connaissez pas le vrai Dieu. La foi réelle, elle est en relation avec un Dieu qui est juste. Jérémie a des fois des moments difficiles. Il dit, oh Dieu, tu es juste, mais... Hein, mais il se pose une question, mais pourtant il dit, tu es juste. Un autre fait qui est certain, c'est que Dieu est amour. Vous en êtes sûr de ça? Oui, Dieu est amour. Dieu aime les peuples. Un autre fait certain, c'est que Dieu est bon. Jésus l'a dit, un seul est bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu est bon. Un autre fait certain aussi, ce que tu viens de souligner ici, André, Dieu est miséricordieux. Il a fait miséricorde. Donc, si nous sommes ses enfants, nous serons aussi miséricordieux. Mais Dieu est aussi lumière. Et si nous sommes ses enfants, nous sommes des enfants de lumière. Alors, tous ces faits divins dont nous sommes certains ont été manifestés dans un fait central et magnifique qui devient l'objet de la foi, la rédemption de l'humanité par Jésus-Christ. Tous ces faits-là, que Dieu est tout-puissant, que Dieu existe, nous le savons maintenant. Pourquoi est-ce que je crois que Dieu existe? Parce qu'il y a eu Jésus-Christ. Jésus-Christ est pour moi la preuve de cette existence de Dieu. Et c'est la vie de Jésus qui me révèle toutes ces certitudes. Alors, les éléments de la vraie foi... Si la réalité des faits divins nous a saisis, cette conviction de la pensée se traduit pratiquement à l'égard de Dieu par une attitude de confiance et d'obéissance. Avec la conviction de la pensée, la confiance et l'obéissance constituent les éléments d'une foi complète. Pleine de confiance en Dieu, c'est le don du cœur. Quels que soient les mystères et les épreuves de la vie, vous restez dans la confiance.
c'est une absolue obéissance à Dieu, une soumission à sa volonté, quels que soient les ordres et les voies de Dieu à notre égard. Je me soumets comme Abraham l'a fait. Alors nous reportons sur Christ, manifestation suprême de Dieu, notre conviction, notre confiance, notre obéissance que nous avons à l'égard de Dieu. Jésus disait, si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Tout ce que vous connaissez de Dieu, vous l'avez dans le Christ. Et alors, depuis la venue du Christ, depuis sa révélation qui nous donne la foi, Dieu maintient cette révélation par quoi ? Par sa parole. Nous avons Christ, nous avons maintenant sa parole, la foi vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu, ce sont les saintes lettres qui peuvent rendre sage à salut, et puis aussi par le témoignage des hommes qui annoncent ce message. Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui annoncent ce message. Puis aussi par les révélations directes et individuelles que nous donne le Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas si vous avez médité un peu sur les caractères de la vraie foi dont nous vous parlions hier soir, cette foi qui est fondée sur les manifestations éternelles d'un Dieu qui est immuable. Tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières en qui il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Le caractère de la vraie foi, c'est qu'elle est une. Il y a une seule foi. Elle est invariable. Elle est toujours identique à elle-même. Alors la vraie foi, un de ses caractères, elle est sincère, elle est sans duplicité, on pourrait citer les versets. Elle est humble, elle est saine, elle est sobre, elle est paisible, elle est calme, elle est sereine, elle est joyeuse. La joie dans la foi, c'est beau, hein, Philippiens 1, verset 25. Elle est ferme, elle est assurée, elle est sans défaillance. Et pour que notre foi ne défaille pas, qu'est-ce que Jésus nous dit ? Il a prié pour nous, pour que notre foi ne défaille point. Elle est patiente, elle est persévérante. Et elle peut être éprouvée. L'épreuve de votre foi plus précieuse que celle de l'or qui périt. Et nous ne devons pas avoir peur que notre foi soit éprouvée. Jacques en parle aussi de cette épreuve de foi. Mais elle est aussi un combat. Elle est agissante par la charité. Elle donne la victoire. Puis elle a un prix, le prix de notre foi. Si elle a une fin, quand est-ce que notre foi cessera? Quand on le verra. La foi sera changée en vue. L'espérance sera changée en réalité, et qu'est-ce qui restera? L'amour. La plus grande des choses, c'est l'amour. Voilà, c'est l'heure du midi. Donc, à, qu'est-ce qu'on a dit, 1h30, Noël?